Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue au Mardi de la mémoire. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Alexandra Zvereva. Vous êtes directrice du musée du Castel Vera, musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, qui à mon avis, à part peut-être pour les habitants de Saint-Germain-en-Laye, n'est pas le musée le plus connu. Quand on parle de Saint-Germain-en-Laye, on parle plutôt du musée archéologique, mais vous allez justement nous le présenter avant que nous nous lancions dans cette très belle exposition. Les auditeurs auront encore une petite dizaine de jours pour aller la voir puisqu'elle s'interrompt le 5 avril, qui est consacrée au Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye. Mais avant, présentez-nous peut-être ce musée qui s'articule d'ailleurs autour de plusieurs pôles, il me semble.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, bonjour à tous déjà. Donc il y a trois musées à Saint-Germain-en-Laye, hein, trois musées tous labellisés Musée de France. Le plus connu effectivement, c'est celui du château, donc le musée d'archéologie nationale, le musée géré par l'État et consacré à l'archéologie, préhistoire et l'époque gallo-romaine. Vous avez également le musée Maurice Denis, qui est un musée départemental, donc qui se trouve dans l'ancien atelier et dans l'ancienne maison de Maurice Denis, et donc géré par le département. Et puis il y a le musée municipal, donc musée municipal qui porte depuis 2021 le nom de du Castel Vera, mais qui est en réalité le premier et le plus ancien musée de Saint-Germain-en-Laye. Le plus ancien, la date de fondation du musée, on l'a bien, bien inscrite dans nos registres, c'est 1848. À cette époque-là, le château est un pénitencier militaire, c'est une prison. Maurice Denis n'est même pas un gourmet, donc voilà, la question de son musée ne se pose pas. C'est une initiative purement locale qui appartient notamment à Louis-Alexandre Ducastel. Il était notaire, conseiller municipal, maire à deux reprises de Saint-Germain-en-Laye, parisien de naissance mais amoureux de sa ville d'adoption où il est arrivé en 1813 pour épouser la fille du notaire de Saint-Germain-en-Laye dont il a ensuite a repris l'étude. Et pour Louis-Alexandre Ducastel, Saint-Germain-en-Laye devait devenir une ville culturelle. En fait, la ville, au début du XIXe siècle, vit un moment un petit peu de déclin, mais aussi d'un réveil annoncé avec l'arrivée du chemin de fer, la première ligne voyageur entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Et c'est une ville qui vit à l'époque d'abord du commerce. C'est une porte d'entrée de tous les denrées alimentaires en provenant de Normandie et des plaines agricoles des Yvelines vers la capitale. Il y a un marché au port, il y a des animaux qui transitent par la ville, il y a des grands marchés alimentaires. Et d'autre part, c'est une ville de villégiature. Pour les Parisiens, un manque de nature, un manque d'air frais, un manque de promenade, d'exercice physique, donc qui viennent d'abord en calèche, puis ensuite à partir de l'arrivée de ce chemin de fer, de ce train en train, donc en 20 minutes depuis Paris, quel bonheur, pour se promener sur la grande terrasse. Ils se construisent des villas un petit peu à l'écart du centre-ville, qui lui est plutôt un centre-ville populaire et qui se dégrade vraiment beaucoup. Donc pour Louis-Alexandre Ducastel, il faut absolument qu'il y ait de la culture dans cette ville, qui vit du commerce et de la villégiature. Et donc, il s'occupe beaucoup des travaux de l'église, de la restauration, de la rénovation et de l'ornement de l'église. Il fait déménager aussi l'hôtel de ville d'un hôtel particulier un petit peu petit vers un hôtel particulier plus grand, parce que il pense qu'il faut absolument ouvrir des espaces pour les habitants, hein, donc créer des services municipaux. Il milite pour que la ville rachète un ancien jeu de paume royal qui sera transformé en théâtre. Et c'est aussi Louis-Alexandre Ducastel qui fait venir comme directeur de ce théâtre Alexandre Dumas dans les années 1840. Et puis 1845, c'est l'ouverture de la bibliothèque municipale. Et 1848, la création du musée municipal, qui est au début un petit musée de tableaux, pour que les habitants et puis les visiteurs de Saint-Germain-en-Laye puissent voir les œuvres que la ville possède déjà. Et puis ensuite, le premier conservateur, Eugène Benoux, est chargé par Ducastel de motiver les Saint-Germanois pour qu'ils donnent, lèguent, offrent des œuvres à la ville de manière à enrichir ce musée municipal. Il y a aussi toute une politique très novatrice en fait pour l'époque d'ouverture vers les enfants, vers les jeunes, avec la création des ateliers de peinture, des expositions, des réalisations par les enfants. Donc tout ça, on est dans les années 1840, hein, c'est vraiment très très tôt. Et ce musée va prendre une dimension tout autre lorsque Ducastel offre à la ville sa propre collection d'art, qui est une collection très importante avec plusieurs centaines d'œuvres, des arts graphiques, des sculptures, des peintures de premier ordre. Donc le musée s'enrichit et véritablement change de dimension. Donc c'est un musée d'art, un musée d'histoire également, parce qu'il est intimement lié à la ville de Saint-Germain-en-Laye. Chaque œuvre que le musée possède a toujours un lien avec la ville, soit par le sujet, soit par l'artiste, soit par le collectionneur, par son propriétaire, il y a toujours quelque chose.
Et le nom a collé du Castel Vera, alors
Alors,
je
Ducastel, vous avez compris, c'est le fondateur du
sûr.
musée. Effectivement, lui, à l'époque, n'a jamais voulu que son nom soit attaché au musée. C'était quelqu'un plutôt modeste, en fait, dans son approche. Donc, c'est un hommage qu'on lui avait fait en 2021, parce que véritablement, c'est lui qui est à l'origine de ce musée, qui, après, n'a jamais cessé de s'enrichir. Donc, c'est vraiment des arrivées comme ça, des collections, des dons, des legs. Faites par les Saint-Germainois, par les collectionneurs, par les artistes. Et l'une des plus importantes donations relativement récentes, c'est 1968, c'est la donation faite par André Vera du fonds d'atelier de son frère Paul Vera. Alors les Vera, c'est un peu comme Ducastel, c'est le nom qui ne dit pas grand-chose aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, mais si vous prenez n'importe quel ouvrage sur l'urbanisme, sur la peinture, sur le style art déco, par exemple, vous allez systématiquement tomber dès les premières pages sur le nom d'André Vera. C'était un personnage absolument incontournable. Lui aussi, d'une modestie presque maladive, donc quelqu'un qui ne voulait jamais se mettre en avant, mais qui a beaucoup œuvré. Déjà, il est à l'origine du style art déco, en fait. Il est l'auteur dès 1912 d'un article qui s'appelle Le Nouveau Style et où il résume parfaitement ce que art déco va devenir, alors qu'à l'époque, nous sommes encore en plein art nouveau, on est avant la guerre. Et c'est lui qui va théoriser l'art déco à la française. C'est lui également qui va théoriser le jardin moderne. Les jardins modernes lui doivent tout, pratiquement. Il est le premier à créer, à théoriser et mettre en pratique également, parce qu'il est créateur de jardins. C'est également quelqu'un qui est à l'origine de l'urbanisme conscience. C'est l'un des premiers à avoir dit que l'urbanisme, ce n'est pas une histoire d'architecture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que l'architecture. Ce sont aussi des circulations urbaines, des espaces verts, des transports, les façons de vivre, les jeunes, le sport, voilà, c'est un ensemble. Donc il est à l'origine de la création de la revue L'Urbanisme. Donc un personnage vraiment incontournable. Son frère est l'un des artistes majeurs de l'entre-deux-guerres. Donc c'est pour préserver l'œuvre artistique de son frère qu'il fait cette donation au musée de Saint-Germain-en-Laye. Mais pour nous, c'est plutôt André Vera qui est lui-même le personnage incontournable. Donc dans notre esprit à nous, c'est plutôt Louis-Alexandre Ducastel et André Vera qui forment notre nom. Il était également un grand défenseur du patrimoine de Saint-Germain-en-Laye. C'est grâce à lui, par exemple, qu'il n'y a pas de voiture sur la terrasse. Qu'il n'y a pas de voiture sous la terrasse, où il y avait des gros projets d'usines, de routes, que la plaine de la Jonction n'est pas urbanisée, qu'il n'y a pas de lotissement dans la forêt. Il a vraiment beaucoup, beaucoup œuvré dans les périodes très complexes, hein, les années 30, avec des grands projets d'urbanisme assez destructeurs, et surtout dans les années 50 et 60, où là, on n'hésitait pas à abattre des quartiers entiers pour construire des bars, pour élargir des routes. Et il était toujours en faveur de la protection du patrimoine, du centre ancien, notamment de Saint-Germain-en-Laye, de la forêt, des espaces verts, très également lui aussi précurseur dans son domaine. Donc on rend hommage à ces deux personnes qui nous permettent également de montrer le côté hétérogène aussi de notre musée, parce qu'on a le collectionneur du 19e siècle et un artiste du 20e. C'est toute l'étendue de nos collections, toujours en lien avec la ville, mais ça va des antiquités égyptiennes jusqu'à la première moitié du XXe siècle.
Alors, merci beaucoup, Alexandra Zvereva, de cette très belle présentation du musée que vous dirigez, donc le musée du Castel Vera, qui est, je le rappelle aux auditeurs qui viendraient de prendre en cours notre émission, le musée municipal de la ville de Saint-Germain-en-Laye, à ne pas confondre avec le musée abrité par le château qui est le musée archéologique national. Donc musée municipal qui porte ce double nom dont vous venez de nous expliquer l'origine. Et avant de se plonger dans la très belle exposition que vous consacrez au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, on peut peut-être revenir sur un événement que vous avez tout juste et rapidement signalé, qui est l'inauguration effectivement de cette première ligne voyageurs des chemins de fer, Paris Le PEC, Paris Saint-Germain-en-Laye, et dont l'inauguration a lieu dans des bâtiments qui étaient des bâtiments vestiges hein, du Château Neuf et qui nous permettront de faire un lien. Je me suis amusée à regarder un peu cette ligne et ça m'a permis de voir que en 1837, la gare Saint-Lazare n'existe pas, elle qui va être immortalisée par les tableaux des impressionnistes. En fait, on descend depuis le pont de la place de l'Europe. C'est là qu'est l'embarcadère pour le train qui va partir vers Saint-Germain-en-Laye, vers la gare du PEC. Il y a de très très jolies gravures, illustrations qui permettent de voir cette gare en hauteur et ses escaliers pour descendre sur ce qu'on appelait l'embarcadère du premier train de voyageurs pour partir vers Saint-Germain-en-Laye.
Alors, c'est très facile pour moi de vous en parler parce que nous avons dans la même ligne d'exposition, comme l'exposition sur le Château-Neuf, hein, donc les expositions qu'on a lancées depuis 6 ans, on fait des expositions plutôt beaux-arts où on présente nos collections, mais on fait également ces expositions patrimoniales où on raconte l'histoire de la ville. Et il se trouve qu'il y a quelques années, on avait fait une exposition consacrée au rail à Saint-Germain-en-Laye, qui est une véritablement ville du rail, dans toute sa diversité, avec des choses même très surprenantes et méconnues, comme le train atmosphérique par exemple. Hein, donc je ne vous raconte pas tout en détail, mais c'est absolument fascinant. C'est le cas unique en France d'existence de ce système atmosphérique. Donc la première ligne du chemin de fer aux voyageurs, effectivement, c'est une ligne entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Donc le billet que les voyageurs achètent mentionne bien Saint-Germain-en-Laye. On parle parfois du PEC d'une façon abusive. Aujourd'hui, le débarcadère se trouve au PEC, mais à l'époque, ce
Ah oui.
débarcadère se trouve dans le bois du
Oui, bien
Vésinet.
sûr, vous avez
Le
raison,
village
oui.
du PEC est sur l'autre rive de la Seine. Et dans ce bois du Vésinet, il y a ce très bel débarcadère construit par les frères Pereire pour assurer provisoirement le terminus de la ligne, parce qu'on espère toujours le prolongement jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Le problème de Saint-Germain-en-Laye, c'est le dénivelé de 60 mètres, un peu plus au niveau du bord du plateau, et au centre-ville, on n'est plus à 75 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Donc en 1837, les locomotives ne sont pas capables de franchir un dénivelé aussi important. Il n'y a pas de machine qui permet de monter aussi haut, sur si peu de distance aussi.
Bien sûr.
Donc le but des voyageurs, c'est bien Saint-Germain-en-Laye, mais ils arrivent au débarcadère dans le bois du Vésinet, ils empruntent ensuite un omnibus qui est hypotracté, et qui leur permet de monter à travers justement les anciens jardins hein, et les anciennes terrasses du Château-Neuf qui ont été détruites pour l'occasion pour faire passer cette route. On anticipe un petit peu cette histoire qu'on raconte plutôt vers la fin de l'exposition. Et donc ils montent et ils arrivent vers le centre-ville et ils peuvent se promener sur la terrasse et dîner ou déjeuner ou prendre une collation ou profiter du paysage à l'hôtel, restaurant, pavillon Henri IV, qui effectivement occupe une toute petite partie, très importante, mais toute petite partie de l'ancien Châteauneuf détruit.
Et qui est le siège de la Compagnie des chemins de fer, à cette époque en tout cas.
C'est pas tout à fait le siège.
Ah
Non,
bon?
non, en fait, c'est pas le siège. C'est la compagnie de chemin de fer qui l'achète parce qu'ils ont besoin d'avoir cette institution de prestige où ils peuvent bah, notamment fêter l'arrivée du chemin de fer hein, avec la reine Marie-Amélie qui est présente. C'est le restaurant le plus à la mode, le plus en vue et puis remarquablement bien placé surtout. Le propriétaire de ce restaurant vient de faire faillite parce qu'il a beaucoup trop investi dans la rénovation et la restauration des bâtiments. Il s'appelait Barthélémy Planté, un entrepreneur saint-germanois. Et ensuite, l'hôtel-restaurant est géré par les chefs cuisiniers, parmi lesquels sera ensuite le fameux Collinet, l'inventeur, comme on dit, de la sauce béarnaise et des pommes sautées.
Très bien, très bien. En tout cas, c'est toute une page d'une histoire qui nous paraît à la fois proche et loin. L'arrivée du chemin de fer, c'est quelque chose de magique parce que pour nous, habitants de la région parisienne au XXIe siècle, le chemin de fer, c'est notre quotidien. Donc, on se sent encore très proche de ces voyageurs de 1837 et en même temps, c'est tout un monde qui, à la fois dans la technique et dans la rapidité, dans la temporalité, est modifié. Là, il fallait à peu près 1 heure, ce qui me semble quand même assez rapide finalement, pour faire 19 km, hein, il me semble.
Même moins que ça, en fait. C'est une trentaine de minutes. Hein.
En train
Après, il faut
alors.
rajouter quand
Eh
même le
oui.
temps en omnibus. Mais avant ça, en calèche, à condition qu'on s'arrête nulle part, ce qui n'est pas le cas de toutes les calèches, il y avait des coucous, par exemple, qui faisaient des arrêts. C'est plusieurs heures hein, entre Paris et Saint-Germain-en-Laye.
Eh oui,
Donc, c'était un gain de temps considérable,
bien sûr.
extraordinaire. On
Alors,
pouvait faire un aller-retour dans la journée, en fait. Ce qu'on ne pouvait absolument pas faire avant. Avant, vous partez le matin, vous arrivez dans le meilleur des cas vers midi à Saint-Germain-en-Laye, donc il fallait absolument loger, dormir sur place.
bien sûr,
Là,
oui,
on
et puis
pouvait partir le matin et revenir tranquillement à Paris.
ça ouvrait d'autres horizons que le bois de Boulogne, de pouvoir partir à Saint-Germain-en-Laye, effectivement. Alors, Alexandra Zvereva, je rappelle que vous êtes la directrice du musée du Castel Vera, qui est le musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. Vous consacrez, depuis le mois de novembre et jusqu'au 5 avril, donc une très belle exposition qui est un peu le complément, comme l'exposition de maison et le complément de la vôtre. Mais c'est vrai que l'une et l'autre sont intéressantes à voir simultanément. Au château de Maison, à Maison Laffitte, s'est tenue une magnifique exposition consacrée au comte d'Artois, prince et mécène, qui remettait à l'honneur ce château de Maison et qui rappelait certainement à beaucoup quelle fut l'histoire de Maison avant Maison Laffitte. Et là, à Saint-Germain-en-Laye, au musée du Castel Vera, vous retracez l'histoire d'un endroit disparu qui était le Châteauneuf et il y a effectivement au 18e un lien puisque le comte d'Artois va se retrouver à la fois propriétaire du château de Maison et du Châteauneuf que lui donne son frère Louis XVI. Alors, on va évidemment retracer toute l'histoire de ce Châteauneuf, expliquer sa disparition, mais peut-être pour être sûr de l'avoir évoqué, parce que ça fait moins partie de l'histoire que l'on va vouloir raconter, à la Révolution française, le château de Saint-Germain-en-Laye, quel sort lui est réservé?
Alors, le château vieux ou le château neuf? Parce que
Bah,
c'est ça, en fait, la
on peut
complexité,
peut-être
c'est qu'il y a
justement
vraiment
parler des
deux
deux.
châteaux.
Oui.
Oui. Alors, le château vieux et le château neuf, ils ont une histoire commune jusqu'à, on va dire, 17e, c'est une histoire royale, puis au 18e, c'est déjà une histoire qui n'est pas une histoire royale, c'est une histoire différente. Les rois de France, Louis XV et Louis XVI, ne séjournent jamais dans leur résidence Saint-Germain-en-Laye, que ce soit Châteauvieux, que ce soit Châteauneuf. Louis XVI donne beaucoup de lettres et d'ordonnances à Saint-Germain-en-Laye, mais si on regarde attentivement, c'est Saint-Germain-en-Laye les loges, Saint-Germain-en-Laye croix de Noailles, Saint-Germain-en-Laye la muette. Ça veut dire qu'il est dans la forêt. Il n'est absolument jamais dans ses résidences Saint-Germainoises. Donc, les deux châteaux vivent déjà sans monarque, sans occupant couronné, depuis presque un siècle, hein, plusieurs décennies, lorsque la Révolution éclate. Et leur sort va être difficile dans le sens où on ne sait pas exactement comment les utiliser et qu'est-ce qu'on peut en faire. Le Châteauvieux aura un petit moment, un petit sursaut, un petit quelque chose sous Napoléon, lorsque Napoléon Ier y installe une école de cavalerie, qui est une école qui est en fait l'ancêtre de l'école de Saint-Cyr aujourd'hui. Ensuite, l'enseignement à la Restauration va être déplacé de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à Saint-Cyr. Donc c'est une existence relativement courte, hein, 1809-1815, et un usage somme toute ambitieux, mais par le petit temps que les élèves officiers de cavalerie passent dans le château, où il n'y avait pas tellement de modifications. De grands projets étaient prévus, mais qui n'ont jamais pu voir le jour. Ensuite, il n'y aura pas aucune dynastie, en fait, que ce soit à la Restauration, que ce soit sous Louis-Philippe ou Napoléon III, ne voudra retrouver le faste royal de la résidence Saint-Germanoise. On est toujours en train de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et le Châteauvieux, lui, comme j'ai déjà pu le dire, est transformé en pénitencier militaire sous Louis-Philippe, avec des protestations par les habitants qui disent que c'est un château royal et que c'est absolument pas un endroit et la terrasse, le centre-ville, pour une prison militaire qui va être surpeuplée, qui sera quand même un établissement assez marquant dans le paysage, hein, avec le château qui se dégrade. Et puis c'est Napoléon III qui aura cette idée d'y placer sa propre collection d'archéologie et de transformer le château en musée d'archéologie. Il était pendant un moment question de le raser parce qu'il était vraiment très très délabré. Donc c'est une histoire triste qui se termine bien avec une restauration par Eugène Millet, un grand ami de Viollet-le-Duc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le château de Saint-Germain-en-Laye, on n'imagine pas son histoire mouvementée. On a l'impression de voir toujours le château de François Ier. En fait, il a ce visage Renaissance qu'il offre, hein, Renaissance rêvée et réinventée au XIXe siècle, mais Renaissance quand même, hein, avec des F couronnés un peu partout. Mais on ne se doute pas une seconde, et c'était l'une des découvertes aussi de notre exposition, de l'existence de ce deuxième château, du Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye, alors que c'est un château qui, au XVIIe siècle, est le château de Saint-Germain-en-Laye. Lorsqu'on parle du château de Saint-Germain, on parle du Châteauneuf et pas du Châteauvieux.
Et bien sûr.
Vraiment la première résidence royale la plus importante, la résidence emblématique véritablement des rois de France, célèbre dans toute l'Europe, une merveille qu'on vient visiter, qu'on cherche à voir, dont les gravures circulent absolument partout, un bâtiment extraordinaire, un bâtiment superbe, dont aujourd'hui il subsiste la rampe des grottes, et on était très surpris. Nous, Saint-Germainois, pour qui c'était un peu évident que c'est le reste du Châteauneuf, de voir que pour les Saint-Germainois d'aujourd'hui, récemment arrivés, ou les visiteurs de la ville, la rampe des grottes est tout sauf un bout de château. C'est un mur. On nous a dit, ah oui, on pensait que c'était fait pour une piste cyclable. On nous a dit aussi, ah, moi je pensais que c'était une cave à vin. si, entrer dans les carrières. Enfin, il y a toutes sortes d'imaginaires qui viennent donner une explication à la présence de cette rampe qui est très, très forte dans le paysage, très marquante. C'est un questionnement qui ne vient pas, par exemple, lorsque vous visitez le château de Meudon, qui est un château également détruit en grande partie, qui est aujourd'hui le siège de l'Observatoire de Paris, et qui était la propriété et la résidence du grand dauphin, auquel le château de Versailles vient de consacrer une remarquable exposition.
Bien sûr.
Dans ce château, où il y avait aussi un château neuf, vous voyez également des terrasses, vous voyez également des murs de soutènement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Vous vous dites, tout ça, c'était un château, tout ça appartient à un château, à un ensemble castral, à une résidence princière. À Saint-Germain-en-Laye, la rampe des grottes, aujourd'hui, elle est cernée de partout par des constructions. Et on a du mal à visualiser, à comprendre qu'il y avait un château. Il semble ne pas avoir laissé de marque. Il semble ne pas avoir laissé de traces. Même dans la toponymie, on n'a pas de rue du Château-Neuf, rue du pavillon. C'est rue Thiers, c'est rue des Arcades, mais de quelle arcade on parle? Voilà. C'est en plus partagé entre deux communes, hein, la commune de Saint-Germain en haut et la commune du Pecq en bas. Donc, on a l'impression que finalement, ce château n'a pas laissé de traces. Il s'est évanoui, alors même qu'il y a des vestiges assez importants qui subsistent, hein, donc la rampe des grottes notamment, hein, mais on ne le voit pas. Et ça devient un château un petit peu mythique, chez les Saint-Germainois, notamment. À chaque fois, quand on a un élément d'architecture un petit peu sculpté, un peu travaillé, un peu exceptionnel chez soi, dans son jardin, on pense tout de suite que c'est quelque chose qui provient du Château-Neuf.
Alors, Alexandra Zvereva, vous êtes la directrice du musée municipal du Castelvera. Avec vous, nous parlons du château de Saint-Germain-en-Laye, du château vieux, mais surtout du château neuf, puisque jusqu'au 5 avril, vous consacrez à cette question du château neuf une magnifique exposition qu'il faut absolument aller voir, Revoir le château neuf, la demeure disparue des rois à Saint-Germain-en-Laye. Nous allons nous interrompre quelques instants où les auditeurs entendront l'ouverture, le prologue de l'opéra Atys de Lully qui a été joué à Saint-Germain-en-Laye et nous reprenons ensemble notre conversation juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, aujourd'hui au Mardi de la Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Zvereva, qui est la directrice du musée du Castelvera. Avec elle, nous présentons l'histoire de ce château neuf de Saint-Germain-en-Laye, qui est le centre de héros de cette exposition consacrée au Château-Neuf, à cette demeure disparue des rois à Saint-Germain-en-Laye. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandra Zvereva, un château existant, un château qui va s'appeler le Château Vieux, construit globalement sous François Ier, Henri II, et puis qui va être une résidence royale temporaire. Un roi qui tout d'un coup va s'y intéresser de façon plus importante, c'est Henri IV. Et alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans votre dossier de presse, il est dit qu'il trouve que Saint-Germain-en-Laye ressemble à Pau. Alors là, je vous pose la question, quelle ressemblance trouvait-il ?
C'est le côté surélevé, le côté un coteau qui domine le paysage avec la vaste vallée, le fleuve en dessous.
D'accord.
C'est quand même un endroit extrêmement pittoresque. Aujourd'hui, vous le voyez complètement urbanisé, avec une ville qui s'arrête, l'autre qui commence aussitôt. La vue qu'on a depuis la grande terrasse est une vue sur l'île de France, densément peuplée et construite. Il faut imaginer à l'époque quelque chose de très 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 vert et qui est facile d'imaginer dans notre exposition puisque le musée possède un tableau qui représente justement cette boucle de Seine au milieu du XVIIe siècle qui n'est pas du tout urbanisée, qui est très verte, très cultivée, agricole, mais aussi avec des forêts, avec des massifs très, très denses, et avec ces châteaux qui en émergent. On a parlé tout à l'heure du château de Maison, qui est l'un de ces châteaux qu'on voit sur le tableau, et le château vieux, le château neuf de Saint-Germain-en-Laye, qui apparaissent vraiment dans toute leur splendeur sur le coteau, qui sont plus grands. Mais on a beaucoup parlé, et on parle encore aujourd'hui, hein, pour les touristes des châteaux de la Loire, on peut aussi parler des châteaux de la Seine. Au XVIIe siècle, en tout cas, c'était une réalité. On n'avait pas cette profusion d'habitants et d'habitations qu'on a aujourd'hui.
Donc, c'est très joli, pardon de vous interrompre, Alexandra Zvereva, mais c'est très joli cette formulation des châteaux de la Seine, parce que vous avez raison, on oublie du fait de cette région parisienne sur-urbanisée, mais on oublie ce que devait être ces boucles de la Seine où on pouvait partir du Louvre, passer par Saint-Cloud, aller vers Saint-Germain-en-Laye et puis à l'intérieur des terres, on y trouvait Fontainebleau, on y trouvait Rambouillet, on y trouvait Versailles. Enfin, c'est quand même un endroit, même le château de Sceaux, le château de Meudon, le château de Maison, qui est... Enfin, il y a une luxuriance des propriétés royales et princières.
Oui, c'est une constellation de châteaux, hein, effectivement, princières ou par les grands serviteurs du royaume, hein, comme le château de Vaux-le-Vicomte, construit par Fouquet, par exemple, ou le château de Sceaux, c'est les Colbert. Donc, on s'y installe, on s'y sent bien et on se tourne régulièrement vers la Seine qui offre un paysage, qui offre une vue, qui offre une perspective. C'est la nature, c'est la contemplation de la nature, on est à l'extérieur des villes. C'était extrêmement plaisant. Dans la galerie de la Reine au Château-Neuf, dans la partie lambrissée, on trouvait représentées justement les différentes villes dans la Seine, depuis Nanterre et jusqu'à Melun. Le futur Louis XIII, fait ses leçons de géographie locale en regardant ces images avec son médecin qui lui fait comme ça réciter les noms des différentes villes qu'on trouve lorsqu'on remonte la Seine.
Alors donc, que décide Henri IV dans sa volonté d'aménager de ces berges, ces coteaux qui descendent vers la Seine, dans une réalisation dont il faut dire tout de suite aux auditeurs que s'ils se rendent à votre exposition, ils vont avoir l'énorme chance de voir un film de reconstitution virtuelle et qui leur permettra bien mieux de comprendre ce que nous allons essayer de leur expliquer par des mots aujourd'hui.
Oui, effectivement, expliquer par des mots, c'est une image parfois vaut mieux. Et cette restitution numérique, qui est un projet mené par la ville de Saint-Germain-en-Laye en partenariat avec la Sorbonne et le CNRS, donc d'une part les historiens de l'art spécialistes de l'architecture du 16e-17e siècle, et d'autre part les ingénieurs d'études du CNRS spécialisés dans la numérisation de l'existant. Et la restitution numérique ensuite à partir de cette numérisation de l'existant, qui est donc la particularité de ce film, c'est on part vraiment de ce qui existe pour retrouver ce qui n'existe plus. On ne restitue pas dans le vide. Donc c'est une tâche éminemment complexe, mais qui a le mérite d'être scientifiquement très précise et de permettre de superposer ce qui existe avec ce qui existait et de comprendre quelles traces aujourd'hui restent de ce bâtiment disparu et comment ce bâtiment s'inscrivait véritablement dans le paysage.
Et vous avez
Donc la
l'intention
résidence de...
de lui donner une diffusion à ce film, une suite après
Alors,
l'exposition?
ce film, bien évidemment, aura une vie après l'exposition. C'est en quelque sorte sa première sortie dans le monde, hein. Pour le moment, c'est un film qui clôt l'exposition. Il n'a pas de son, par exemple. Il a uniquement les sous-titres. C'est fait exprès pour permettre au plus grand nombre de profiter sans avoir la musique ou la voix qui peuvent être perturbante dans une exposition. Donc, c'est un film qui va avoir une vie après l'exposition que la ville espère exploiter. Il y a différentes pistes. Il y aura une publication aussi certainement prévue. Il y a différentes pistes. Il faut encore qu'on étudie tout ça de plus près, mais cette exposition n'est qu'une première étape en quelque sorte dans la vie de ce projet en particulier.
Alors, Henri IV avait sa mère qui était née à Saint-Germain-en-Laye. Je ne savais pas.
Tout à fait. Oui. Jeanne d'Albret est née à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Ce qui nous permet en fait un peu d'évoquer justement parce que c'est donc la résidence Saint-Germanoise est l'une des résidences franciliennes des rois de France. C'est sous François Ier que les rois de France déménagent en quelque sorte, vont beaucoup plus rayonner dans l'Île-de-France qu'ils le faisaient auparavant. Les Valois avant François Ier, c'est essentiellement dans le Val-de-Loire qu'on les trouve, à Amboise, à Tours. Là, avec François Ier, s'opère une sorte de recentralisation. Et donc, à partir de là, c'est le Louvre, c'est Fontainebleau, c'est Saint-Germain-en-Laye, c'est Château de Madrid, c'est toutes ces résidences franciliennes des rois qui ont chacune une spécificité. Ça ne veut pas dire que toutes se valent et que le roi s'y comporte de la même manière quand il est au Louvre, ou quand il est à Fontainebleau ou quand il est à Saint-Germain-en-Laye. François Ier, lorsqu'il reconstruit le château médiéval de Saint-Germain-en-Laye, il le reconstruit dans l'idée d'en faire un château familial. En fait, cette proximité avec la nature, cet air qui est réputé salubre depuis déjà longtemps, hein, et c'est quelque chose qui va revenir tout le temps, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle encore, quand on fait la promotion de la ville de Saint-Germain-en-Laye, on parle de son air qui est vivifiant, qui est bon à respirer, qui est sain, voilà, cette position en hauteur, cette forêt qui est là. Font qu'on pense à Saint-Germain-en-Laye pour notamment élever les enfants. Et les rois de France y ont tout naturellement pensé. Donc c'est un château familial déjà pour François Ier. Et c'est pour ça que Jeanne d'Albret naît au château vieux, parce que c'est la fille de sa sœur, en fait, tout simplement. Ça n'a aucun rapport avec les souverains de Navarre. Ce n'est pas l'une de leurs résidences. C'est Marguerite d'Angoulême et reine de Navarre, hein, donc la mère de Jeanne d'Albret, c'est tout simplement parce que c'est un château familial, c'est un château de la famille royale. Et c'est ce que ce château va être également pour Henri II et Catherine de Médicis, donc un château pour leur famille, pour leurs enfants avant tout. Donc c'est le roi et la reine qui bougent et les enfants restent le plus souvent à Saint-Germain. On évite de les déplacer avec la cour pour leur éviter les risques, les maladies, C'est une vie de cour nomade, c'est pas fait pour les enfants en bas âge, et même quand ils sont plus grands, ils restent encore à Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est Catherine de Médicis et Henri II qui viennent régulièrement voir leurs enfants à Saint-Germain. Et c'est là où Henri II, mais c'est très certainement derrière Catherine qui y pense, parce que c'est elle qui veut vraiment venir le plus souvent et voir ses enfants à Saint-Germain, c'est là où Henri II demande à Philibert Delorme de bâtir une maison de plaisance à Saint-Germain, donc à côté du château vieux qui, lui, est occupé par les enfants. Et quand on dit occupé par les enfants, c'est pas un prince ou deux princes, c'est 8 enfants sur 10 de Catherine de Médicis et d'Henri II, un âge très rapproché, donc préadolescent et adolescent, avec leurs époux futurs respectifs, Marie Stuart, le futur Henri IV, le duc de Lorraine, certains princes étrangers aussi, italiens par exemple, qui sont également élevés avec eux, et puis autour d'eux, une cour de France en miniature avec les filles d'honneur, les garçons d'honneur, là où dans la grande cour on trouve les dames d'honneur et les gentilshommes d'honneur. Donc c'est une ambiance quand même un peu collège, hein, internat, avec des enfants qui font des spectacles, qui ont des leçons à apprendre. Donc si le roi et la reine veulent être un petit peu tranquilles dans leur résidence saint-germanoise, ils ne peuvent que s'extraire. Donc en quelque sorte, on sort les appartements royaux du château vieux et on les met vers l'est, sur le bord du plateau calcaire, dans un endroit très agréable mais absolument inconstructible. C'est une petite prouesse architecturale quand même de poser un bâtiment là. C'est ce qui explique aussi pourquoi ce bâtiment n'a pas de cave. C'est on minimise vraiment le poids parce que c'est littéralement le bord de falaise, hein, qui est à cette époque-là, comme ça, à l'est du château vieux. Et donc, ce sont des appartements d'apparat. Il y a un appartement des bains également. Il y a une belle cour fermée, quadrilobée, qui est très pratique pour faire des réceptions, pour donner des spectacles, pour avoir des cérémonies. Donc, une maison de plaisance. On parle à l'époque d'une maison de théâtre et de baignerie. Théâtre pour ses réceptions dans la cour et baignerie pour cet appartement des bains, qui est en fait une sorte de salle de bain. On se baigne très régulièrement à la Renaissance, contrairement au XVIIe siècle.
Et donc c'est sur ce château que Henri IV va exercer un talent de bâtisseur hein, qu'on ne lui soupçonnait pas, en tout cas que l'on attribue plutôt à François Ier avec Chambord, et puis qu'on attribuera ensuite à Louis XIV avec le château de Versailles, mais à Saint-Germain-en-Laye, dans ce château neuf, il va créer, et là le film que vous montrez eh bien, l'illustre de façon éblouissante, une propriété totalement extraordinaire, faite de jardins, de bâtiments, de cours, d'escaliers. Ça fait véritablement rêver quand on voit les choses. Alors effectivement, au château de Maison, les projets du comte d'Artois via son architecte Boulanger, si je ne me trompe pas, nous montrent aussi ce que l'on aurait pu faire si on avait ressuscité au XVIIIe siècle ce château neuf, ce qui ne sera pas le cas.
Oui, donc oui, effectivement, les projets du comte d'Artois étaient quand même extrêmement ambitieux pour ce château neuf, mais très destructeurs aussi de ce que Henri IV avait imaginé. Henri IV, pour lui, cette résidence saint-germanoise va être comme c'était le cas en fait pour François Ier et pour Henri II. C'est toujours une résidence familiale. Donc toujours les enfants dans le château vieux. D'abord ses enfants illégitimes, avec Gabriel d'Estrées, puis après ses enfants légitimes, et puis pour lui-même, et d'abord pour Gabriel, puis ensuite avec la disparition de Gabriel pour la reine Marie de Médicis, c'est la transformation de cette petite maison de plaisance en un véritable château, donc une résidence parfaitement autonome, avec les cuisines, avec les offices, avec les corps de garde, donc tout ce qu'il faut pour que la résidence fonctionne en autonomie complète du château vieux. mais aussi une résidence extrêmement spectaculaire. Alors déjà, relativement peu commune dans sa conception même, parce que à l'intérieur de ce château, il y aura deux ailes symétriques et identiques, une aile pour le roi et une aile pour la reine. Donc ce côté familial, en fait, se reflète véritablement dans la disposition, dans la distribution intérieure. L'étiquette pour le roi et pour la reine n'est pas le même. Le roi a également besoin d'espace pour tenir conseil, par exemple, enfin, pour gouverner, en fait. À Saint-Germain-en-Laye, on ne gouverne pas. On réside, on prend du plaisir, on s'y repose. Le roi vient parfois pour une demi-journée depuis Paris, hein, juste pour voir ses enfants et pour profiter du lieu. Les deux appartements sont parfaitement symétriques pour vraiment montrer l'égalité, en quelque sorte, à Saint-Germain, entre le roi et la reine, entre le père et la mère, tout simplement, des enfants. C'est une transformation extrêmement spectaculaire, très rapide, parce que la construction est vraiment très rapide, très ambitieuse, lorsque on décide de descendre les jardins et de descendre ce site jusqu'à la Seine. C'est-à-dire, on franchit un dénivelé de 60 mètres et 500 mètres de long. Le site, dans son ensemble, fait presque 1 km de long. C'est un bâtiment absolument exceptionnel et extraordinaire, hein, dans un paysage très visible et très prenant. Et lorsqu'on décide de descendre comme ça en terrasse jusqu'à la Seine, c'est qu'on décide de tout maçonner, parce que c'est un espace qui n'est absolument pas prévu pour une construction. On est au début sur le bord du plateau calcaire qui n'est c'est pas du granit, c'est friable, c'est percé de caves, en fait, et de carrières en dessous, hein, également. Ensuite, ça descend d'une façon très très abrupte. Après, il y a une descente enfin, une pente assez accusée quand même, qui est bien exposée côté est et qui a toujours été exploitée pour l'agriculture, mais pas du tout pour construire des bâtiments, parce que c'est pas du tout pratique. Et puis, il y a une partie inondable par la Seine. Aujourd'hui, c'est une zone inconstructible. Ça aurait été vraiment impossible de construire quelque chose. Et la preuve, ce n'était pas construit au moment où le roi décide de bâtir cette nouvelle résidence, de descendre comme ça jusqu'au fleuve. Il n'a pas besoin de raser des bâtiments en dessous, parce qu'on n'est pas dans le domaine royal. Donc, il achète des parcelles agricoles et il a suffisamment de place pour déployer ses terrasses absolument extraordinaires, maçonnées. On multiplie les galeries, on multiplie les constructions pour faire tenir tout ça. C'est 7, 8 terrasses, en fait, qui vont comme ça descendre, reliées par des rampes. Des rampes et pas des escaliers, parce que l'idée est de permettre au roi de monter à cheval. Lorsqu'il arrive depuis Paris par la Seine, il traverse la Seine sur un bac et puis ensuite il monte jusqu'à ses appartements à cheval, sans descendre du cheval.
On a du mal à imaginer, lorsqu'on va se promener à Saint-Germain-en-Laye et qu'on marche sur la terrasse, que le château que l'on voit en fait est le château vieux et que le château qui a disparu c'était le château neuf, et que lorsque l'on parle de la mort de Louis XIII ou de la naissance de Louis XIV, eh bien on parle d'un château disparu.
Tout à fait. Lorsqu'on voit par exemple les tapisseries des maisons royales tissées pour Louis XIV au Gobelins, avec toutes les résidences les plus importantes, la résidence de Saint-Germain-en-Laye, c'est la vue du Château-Neuf. C'est de cette résidence d'abord qu'on parle. Le Château-Vieux est un peu perçu comme un bâtiment suranné, compliqué, très refermé sur lui-même. Avec ses appartements un petit peu exigus. Donc, on y loge pas mal de personnes, mais il lui manque un côté spectaculaire, il lui manque un côté solennel, l'apparat, que le Châteauneuf lui possède. Donc, c'est là que Louis XIII s'éteint, mais avant de s'éteindre au Châteauneuf, et avant même la naissance de Louis XIV, au Château-Neuf, il y aura la transformation par Louis XIII de cette résidence de plaisir et d'agrément en une résidence de gouvernement. Parce que Louis XIII, qui est très attaché à Saint-Germain-en-Laye, c'est sa ville de naissance, sa ville d'enfance. Il est né à Fontainebleau, mais il a un mois seulement quand il arrive à Saint-Germain. Il passe toute son enfance à Saint-Germain-en-Laye. Il voit la construction du Château-Neuf, il voit la création des jardins, il y assiste, c'est vraiment toute son enfance. Il discute avec les maçons, il participe même, hein, il fait des choses. Et cette résidence va vraiment être sa résidence de cœur. Donc quand il devient roi de France, il y revient très régulièrement pour des périodes de plus en plus longues, et puis il finit par habiter constamment à Saint-Germain-en-Laye. C'est pour ça aussi que Louis XIV, le futur Louis XIV, naît à Saint-Germain-en-Laye. En fait, Saint-Germain-en-Laye ne va pas être célèbre parce que Louis XIV est né dedans, mais c'est Louis XIV né à Saint-Germain-en-Laye parce qu'à ce moment-là, c'est la ville la plus importante du royaume. C'est de là que Louis XIII gouverne la France. On imagine toujours Louis XIV à Versailles, mais avant Louis XIV à Versailles, il y a Louis XIII à Saint-Germain-en-Laye. Quelque
Alors,
part, il ne serait pas possible d'avoir Louis XIV à Versailles sans cette première
bien sûr.
expérience d'excentrer le pouvoir royal, de le mettre dans une résidence plutôt que au centre de la capitale.
Alors, Alexandra Zvereva, ce que vous nous dites est passionnant. Malheureusement, l'heure tourne. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directrice du musée municipal de la ville de Saint-Germain-en-Laye, le musée du Castelvera, et que actuellement se tient jusqu'au 5 avril une magnifique exposition consacrée au Château-Neuf, qui s'intitule Revoir le Château-Neuf, la demeure disparue des rois à Saint-Germain-en-Laye. Dans les 3 minutes qui nous restent, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs comment Louis XIV arrive-t-il à s'arracher de Saint-Germain-en-Laye, à le quitter quasi définitivement en 1682, alors que il avait lui aussi, enfin c'est même en plus l'expérience parisienne avait été malheureuse, donc il arrive à se défaire de cet endroit.
Il ne se défait pas réellement, il revient assez régulièrement. Et c'est vraiment l'aventure Versailles qui le prend tout entier. Versailles, c'est sa création. Versailles, c'est sa construction. C'est quelque chose qu'il fait à partir presque de rien. Et c'est quelque chose qui correspond à son caractère, à son envie justement de créer, de marquer, de s'imposer. À Saint-Germain-en-Laye, il est dans les pas de son père, de son grand-père, des Valois. Il y a même une partie Moyen-Âge. À Versailles, même s'il y a ce petit relais de chasse de Louis XIII, ce n'est pas une résidence royale avant que Louis XIV n'y arrive et ne lance toutes ses constructions. À Versailles, ils se sont poussés des ailes, ils se sont complètement libres de désirer et de faire apparaître dans rien, dans un endroit qui n'est pas propice en plus pour des parcs où il n'y a pas d'eau, où trop d'eau dans le sol et pas d'eau pour faire des fontaines. Enfin, c'est un rêve éveillé, c'est sa création. Et c'est la décision qu'il prend de se déplacer comme ça à Versailles avec sa cour pour être vraiment dans le lieu qu'il a voulu, qu'il a souhaité, le lieu à sa mesure. Saint-Germain-en-Laye va beaucoup en pâtir. La ville va beaucoup en pâtir parce qu'elle perd le roi, elle perd la cour, elle perd une bonne partie de sa population qui suit inévitablement la cour. Elle gagne les rois d'Angleterre, hein, en exil pendant un petit moment. Elle a ce petit sursis royal et puis ensuite elle réapprend à vivre sans le roi autour de ses châteaux, après autour de son château, le Château-Neuf n'étant plus, à se réinventer. Et je pense qu'il y arrive parfaitement à se réinventer avec la nature, la culture, l'éducation également, les sujets qui sont ceux qui passionnent les Saint-Germainois depuis longtemps. Et il fait toujours bon élever ses enfants à Saint-Germain.
En tout cas, c'est une ville magnifique. Cette promenade sur la terrasse du parc de Saint-Germain-en-Laye est un vrai bonheur pour les yeux. Merci beaucoup, Alexandra Zvereva, directrice du musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, le musée du Castelvera, de nous avoir, avec beaucoup de enfin, c'était vraiment une très agréable conversation. Vous nous avez enchantés. Revoir le Château-Neuf, la demeure disparue des rois à Saint-Germain-en-Laye. Précipitez-vous, chers auditeurs, c'est jusqu'au 5 avril seulement et cela va vous passionner. Merci beaucoup, Alexandra Zvereva. Et merci chers à auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.
Vous venez d'entendre Les Mardis dans la mémoire, dirigé par Anne Collin, émission préenregistrée le 24 mars 2026 et diffusée pour la première fois mardi 31 mars 2026 de 10h à 11h et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.